Qu'est-ce qui t'a tué à l'œuf, Bête?
Comme
l'œuf.
Il n'y a pas de point là.
Non. Non. Et, hein, en hébreu, on marche sans béquilles. Quand il faut des béquilles, on met des points. Alors, continue, essaye toi.
Alors,
Abéracha. Abéracha, très bien.
Shelacher.
Achar.
Shelachar.
Kriyat Shema, très bien, traduit. Habracha.
La bénédiction.
Sheleacha. Qu'il y a après.
Qui c'est?
Sheleacha. Acha, ça veut dire après. Après le Kriyat. On vous a donné une définition simple, technique. Cette bracha s'appelle Geoula. Pourquoi? Parce que sa hatima, sa clôture, son sceau, sa signature, c'est la référence à Dieu comme celui qui nous a délivrés d'Égypte. Vous vous rappelez de l'analyse de la dernière fois, Ken? Alors, le nom de cette bracha, c'est Geoula. Bon. Et on vous explique, c'est la bracha qu'on dit immédiatement après le Kriyat Shema. Pour simplifier le problème, je vais vous prendre cette question dans la prière du matin. Parce que... Une minute. Parce que dans la prière du soir... Comment on appelle la prière du soir? Arvit. Il y a deux brachot après le Kriyat Shema. Il y a la bracha de la Geoula et ensuite une autre bracha plus petite qui s'appelle Ashkivenu. Donc on va étudier aujourd'hui le problème de la jonction des deux rites le matin où il n'y a strictement aucune ambiguïté, aucun problème. La jonction se fait immédiatement. Le signe, c'est que le Shaliach Tzibour, qu'est-ce que c'est le Shaliach Tzibour? Traduisez-moi, Shaliach Tzibour. L'envoyé de
la société.
De l'assemblée, de la communauté. Vous avez déjà appris le mot de Tzibour. Tzibour, ça veut dire une assemblée. Vous vous rappelez de cela? Kahal aussi. Mais il y a d'autres mots. Aïda, Kahal. Vous les apprendrez après. Maman, dans le vocabulaire de la liturgie, on parle d'un tzibour qui se rassemble. Je vous avais donné d'ailleurs une allusion dans l'étude des chassidim, que tzibour rassemble toutes les catégories d'individus, qu'ils soient tzadikim, benonim, rechaim. Vous vous rappelez de cela? Mais faites bien attention, ce n'est pas le sens du mot. Le sens du mot, ça veut dire être en assemblée. Mais c'est le sens profond du mot. Quand il y a une assemblée, il y a tout le monde. C'est clair? Vous avez compris pour vous? Vous rappelez l'histoire des chassidim, le jour de Kippour, qu'il fallait faire un minyan de perceur de coffre-fort. Vous vous rappelez de ça? Bon, d'ailleurs, si vous entrez dans n'importe quelle synagogue, il y a un tzibour. Ça veut dire, c'est pas une assemblée de saints, comme dans les églises. Enfin, c'est pas une église, dans le sens de l'étymologie. C'est une assemblée du peuple. Et dans le peuple, il y a les trois catégories du point de vue de l'évaluation morale. Okay? Mais qui peut juger? C'est la raison pour laquelle l'assemblée comme telle est au-delà du jugement de valeur. Vous vous rappelez de cela? On a étudié cela. À quel propos? Je t'ai vu.
C'est
Parle plus fort.
Quand on parlait des tzadikim, la différence
entre les noirs. Oui, bon, c'était le sujet très général, mais à quel propos on a parlé de cela, de ce que je viens de dire, c'est que une assemblée, un klal, vous vous rappelez, une collectivité, est au-delà du problème moral, vous vous rappelez de cela? À propos du mérite. À propos, très exactement, du fait que la prière en communauté est toujours plus importante que la prière individuelle. On retrouvera d'ailleurs ces problèmes, c'est-à-dire l'individu se met à l'abri du mérite de l'assemblée. Vous vous rappelez de cela? On en a parlé très, très longuement, je ne sais pas ce que vous avez pris comme note à ce propos-là, mais c'est un sujet très important, retenez bien cela. La notion du klal qui est au-delà de ce qui atteint l'individu. Je vous donnais à ce propos une image qui a été donnée par le rabbin dans le Midrash. Imaginez un bateau de bois. Avec le temps, il faut finalement, pratiquement, avec le temps, remplacer chaque morceau de bois qui se pourrit, qui atteint par les vers, peu importe. Et bien finalement, au bout de X temps, la matière qui fait le bateau a complètement changé, mais c'est le même bateau. Le bateau comme tel n'est pas atteint par le fait que tel ou tel banc est bancal, que tel ou tel. Ça veut dire que le klal n'est pas atteint par le comportement des individus. Il y a des limites, il y a des conditions, mais je vous donne la règle grosso modo. Il y a des seuils de saturation de mâle qui fait qu'un klal est disqualifié. Mais ne confondez pas, encore une fois, vous vous rappelez de l'être collectif qui apparaît lorsque des individus se rassemblent ? Nous avons étudié cela. Comment s'appelait ce psychologue anglais qui faisait ça avec les photos de famille ? Vous avez une mémoire phénoménale. Non, ça n'a aucune importance. S'il s'appelait Dalton, mais peu importe. C'était pour savoir si vous vous rappeliez de ça. Vous vous rappelez de quoi il s'agissait ? Allez, je vais vous mettre le nom au tableau, il mérite quand même. Bien, ça s'appelle l'image générique. C'est ça que je vous avais dit à l'époque ? Bon, de toutes les façons, ce problème du klal, nous aurons à le retrouver dans énormément de sujets, et c'est une notion importante qu'en particulier les juifs de la diaspora doivent retrouver, parce que les juifs de la diaspora faisaient partie de Kehilot. Qu'est-ce que c'est que des Kehilot ? Oui, mais on va préciser maintenant le vocabulaire. Le klal, c'est la collectivité totale. La nation, c'est le klal Israël. La nation, okay, c'est clair ? Bon, un tzibou, c'est une assemblée qui se rassemble pour un objectif particulier, dans notre cas la prière. Donc, celui qui porte la prière de l'assemblée s'appelle le chaliar tzibou. Littéralement, chaliar, ça veut dire l'envoyé de. Vous savez que c'est un chaliar, je ne vais pas vous apprendre. Et puis, le chaliar tzibou est celui qui va porter la prière de la communauté comme telle. C'est la raison pour laquelle il y a des règles très strictes pour choisir le chaliar tzibou. Ça ne va pas être n'importe qui. Dans la plupart des communautés, tout ça, ça s'est perdu, et on choisit un chanteur. Imaginez, okay, l'opéra. Vous avez compris ce que je veux dire ? Bon. Alors, on n'a gardé qu'une des règles, parce qu'en plus, il faut qu'il sache chanter. Mais on n'a gardé que ça. Alors, on l'appelle un hazan. Dans une communauté traditionnelle, les prérogatives du chaliar tzibou sont aussi importantes que les prérogatives du rabbin. Le rabbin, c'est une chose, c'est le juge de la communauté. Le chaliar tzibou, c'est celui qui porte la prière de la communauté. Et dans une communauté traditionnelle, je veux dire authentique, le chaliar tzibou, en général, c'est un grand talmid chacham. Il faut qu'il sache qu'est-ce qu'il dit, parce qu'il va parler pour les autres, pour tous. Vous comprenez ? Bon, nous sommes dans un temps catastrophique, comme vous le savez, on ramasse les morceaux après des catastrophes qui ont duré 2000 ans. Alors on est, je ne sais pas comment dire, tolérant. Tolérant, c'est un mot que j'aime pas, c'est un mot péjoratif. Tolérer, ça veut dire je sais que tu n'es pas bien, mais je te tolère. Vous comprenez ? La règle est un peu plus noble que cela. On tient compte de l'état des choses. Et finalement, on ne demande au chaliar tzibou que le minimum des minimums, qui sache qu'est-ce que ça veut dire le mot de Amen. C'est tout ce qu'on lui demande. Parce que la communauté, on suppose qu'elle ne sait pas du tout ce qui se passe dans le texte, sauf le mot de Amen. Alors c'est lui qui est chargé ça, de transporter ça là-haut. Et c'est lourd parfois. Qu'est-ce que ça veut dire Amen ? Puisqu'on n'en parle. Ça peut vouloir dire ça aussi, mais d'abord le sens fondamental. Aussi, sens dérivé. Les amis, sens dérivé. Mais d'abord, le sens de la racine.
Hein? Un remerciement ?
Non, ça c'est, tu passes par le français, ainsi soit-il, amen. Ça c'est du français, ça. C'est pas, ainsi soit-il, c'est kenei ratson. Ça c'est le souhait. C'est pas kiri elekson, c'est kenei ratson. C'est pas le grec. Et qu'est-ce que ça veut dire la racine aleph memnoun ? Donnez-moi un mot qui vient de cette racine. Emouna. Qu'est-ce que ça veut dire Emouna ? La foi. Chut, pas tous à la foi, parce que vous dites des choses contradictoires en même temps. Emouna, la foi. Mais j'ai entendu tout à l'heure, lorsque vous pensez à Emouna, le mot de croire. Okay ? croyance et foi, ça n'a rien à voir. Parce que quand je dis je crois, je vais faire un peu d'analyse en français, mais c'est le fond du sujet. Quand je dis je crois, ça veut dire je doute. Je crois, peut-être. Dans ces problèmes-là, il vaut mieux être sûr. Vous ne croyez pas ? Quand quelqu'un me dit « Ah, moi je crois en Dieu. » Ah, ben, il y a un orgueil monumental, il croit en Dieu. L'essentiel, c'est que Dieu croit en lui. Ça, c'est un problème. Mais il vaut mieux être sûr, ça veut dire croire. Vous suivez l'analyse ? Alors, dans le mot de « Amen », vous n'avez absolument pas dans cette racine la notion de croire. Parce que croire, ça veut dire douter. Ah, vous voyez l'usage de la langue comme il est trompeur. Hein. Ah, très bien. Qui a dit je suis d'accord ? Bon, vous allez noter ça. C'est adhérer. Mais je reviens sur l'analyse de Emouna après. Oui, c'est un sens dérivé de adhérer. Adhérer, c'est plus fort quand même.
Aleph Memnoun.
Aleph Memnoun, oui. La racine veut dire adhérer.
C'est quoi la racine ?
Léha Amin. Léha Amin. Léha Amin. On a touché ici à une parenthèse qui va être gigantesque. À tel point, il y a du flou dans les idées à propos de ces notions-là. Alors, on va aller de façon systématique. Okay. Alors, la racine, c'est Amen. Cette racine a plusieurs sens. Mais le sens qui nous concerne, c'est le sens de adhérer. Donc, accepter, ça peut aller, mais accepter, c'est moins fort. Parce que je dois accepter parce que je ne peux pas faire autrement. Tandis que adhérer, c'est un acte de la volonté. Ce n'est pas un acte intellectuel. Croire, c'est un acte intellectuel. C'est une opération d'intelligence, croire. Okay. Tandis que là, nous avons une adhésion. L'adhésion, c'est l'adhésion de la volonté. C'est un acte spirituel, mais qui est un comportement de la volonté, pas du tout un comportement intellectuel. Alors, il y a des connaissances qui sont impliquées par cette adhésion, mais c'est des connaissances, c'est pas des croyances, dans le sens étymologique du terme. Le terme de l'ancien français disait créance. Alors, je reviens au mot de Emouna, c'est le substantif de la racine. Le premier substantif, il y en a deux. Rappelez-moi si j'oublie le deuxième que je vous donne. Emouna, c'est le premier substantif de la racine. Amen. Et la forme est au Yifril, pour ceux qui sont plus avancés à l'Ukraine, les Ha-Amin. Le carré, c'est le Yifril. Alors, de là vient le substantif Emouna. Emouna. Alors, ça veut dire premièrement adhésion. Ça veut dire foi, mais distinguer entre foi dans le sens étymologique du terme en français et croyance. Croyance, ça passe par l'intelligence. La foi, c'est un acte d'adhésion de la volonté. C'est un tout autre comportement. C'est bien clair ? Et l'objet de la foi, c'est quoi ? Vous allez voir la différence avec l'objet de la croyance, qui est un objet intellectuel, qui est une idée, un concept. Essayez de réfléchir par vous-même en français, après cette analyse que nous venons d'avoir, de la différence entre ces deux phrases que je vais vous donner. Je crois en Dieu ou j'ai foi en Dieu. Hein ? Tu as compris ma question ? Alors, je vous propose deux formules, deux phrases. J'ai foi en Dieu. Non, vous ne répondez pas en attendant parce que c'est un autre sens. Après. J'ai foi en Dieu à travers le mot hébreu. Ou je crois en Dieu.
La foi n'a pas besoin de preuves.
C'est parce que j'ai eu des preuves que j'ai foi. C'est l'inverse. Si je n'avais pas eu des preuves, je n'aurais pas foi.
J'ai foi en Dieu, je
n'ai pas foi. Ah, très bien. Donc l'objet de la foi, c'est quoi ?
C'est la
vision. À quoi ? Faire confiance à quoi ? Ici, notez tout de suite. Après le mot de foi, vous notez le mot de confiance. Donc je vais vous faire l'étymologie. La confiance Et je vous substitue un mot plus fondamental en ancien français, la fiance. D'où le mot de fiancé, donner sa foi. Quand on se fiance, ça veut dire qu'on s'engage à se faire confiance.
Ça dit comment les mots ?
Emouna.
Confiance aussi. Oui.
Foi, ça a ça, comme sens premier en hébreu, et dans l'étymologie française aussi, faire confiance. On fait confiance à quoi ? Vous suivez, c'est pas trop difficile.
Hein ?
Pour le moment, on est en quatrième du cours complémentaire.
Ça a été traduit en grec par pistis.
En grec,
okay. En grec.
Ça, c'est là.
Mais ça n'a pas le même sens.
Nahon. Vous voyez pourquoi il faut faire d'abord l'étymologie en hébreu. Okay ? Vous allez faire une découverte, comme d'habitude, très simple, mais très importante, pour distinguer les deux vocabulaires. Le vocabulaire « je crois en Dieu », ça ne rentre pas dans l'hébreu. Et vous allez voir pourquoi. Même si ensuite, l'usage de la langue fait que c'est comme ça qu'on parle. Alors que la première formule colle avec l'hébreu. « J'ai foi ». Comportement de l'adhésion de la volonté, ce qu'on a déjà vu, c'est un comportement de confiance qui implique une certitude absolue. Alors que dans... la preuve était avant la foi. Alors que dans croire, il y a le doute. Croire, ça veut dire j'ai des raisons de croire, donc j'ai des raisons de douter. Évacuez-moi ça complètement. L'objet de la croyance, c'est des idées. Alors que l'objet de la foi, c'est quoi ? Par exemple, je dis je crois que Dieu existe. Okay ? Ce problème-là n'a jamais préoccupé les rabbins. C'est un problème pas sérieux. C'est un problème pas sérieux. Pourquoi ? Parce que ça occupe beaucoup de prêtres, beaucoup de religions, mais pas les rabbins, les vrais. Pourquoi ? Parce que l'existence de Dieu ne dépend pas que j'y crois ou pas. Ça ne dépend pas de ça. C'est une phrase vide de sens. Est-ce que c'est clair ? Alors, évacuez cette formule-là. C'est clair jusque-là ? Quand quelqu'un dit « je crois que Dieu existe, donc il existe », il dit une bêtise. Que Dieu existe, ça ne dépend pas de ma croyance. Donc, l'objet de la foi, ce n'est pas l'existence de Dieu. Attends, je n'ai pas fini. Ça, l'existence de Dieu, c'est le pseudo-objet de la croyance. Ça ne dépend pas de mes idées que Dieu existe ou pas. Même si mes idées sont chaleureuses. C'est clair ? C'est pas parce que j'ai découvert que Dieu existe qu'il commence à exister à ce moment-là. Est-ce que c'est clair ? C'est indépendant, carrément. Ce problème de l'existence de Dieu n'a jamais préoccupé le judaïsme. C'est un tout autre problème qui est l'objet de la foi. Essayez de le découvrir, d'après la définition qu'on en a. Et puis vous apprendrez, quand vous serez un peu plus avancé dans la réflexion spirituelle, c'est un problème pas sérieux.
C'est un
problème, je ne sais pas comment dire, d'orgueilleux. Un homme qui va décider si Dieu existe ou pas. Ça dépasse le mur du sang. C'est clair ? Et vous percevez que ce n'est pas sérieux. Et vous avez des bibliothèques entières de théologiens là-dessus. On se demande à quoi ils perdent leur temps. Bon, enfin, ils gagnent leur vie comme ça. Premier problème. Alors, quel est l'objet de la foi ? Avec Philippe, on a beaucoup avancé. Faire confiance à, adhérer à... On ne parle pas de la piété. La piété, c'est encore autre chose.
Au prochain,
c'est faire. Non, on parle de Dieu.
C'est faire, en fait. Exécuter. C'est-à-dire, si j'adhère, c'est que j'accepte...
Ça, c'est les conséquences de la foi. Ça, c'est les conséquences de la foi. C'est-à-dire, si je suis sérieux, la foi a des implications, des conséquences. Donc, je vais faire. Bon. Mais on n'en est pas là. Enfin, vous en êtes là déjà, mais pas dans l'analyse. Vous suivez ou je vais trop vite ?
C'est pas l'alliance.
C'est pas l'alliance. Ça, tu t'approches. Mais c'est un exemple trop particulier ou trop vague. Une analyse, elle doit être toujours très simple et ne parler que de l'essentiel. Rappelez-moi, reconnaître quoi ? Vous répétez ma question.
C'est ce que je sens et ce que je vois, adhérer à ce que je sens.
Non, on parle de la foi en Dieu.
Mais oui.
Tu sens Dieu, toi.
On ne peut pas adhérer à quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on ne sent pas.
Attends, une minute. Suivez ce qu'elle dit, parce que ça vous intéresse autant qu'à moi. Hein. Tu as parlé tout à l'heure de la preuve. Oui. J'ai des raisons d'avoir foi.
Parce que je vois.
Bon, mais ça vient avant. Qui t'a dit que tu vois ? Si tu vois, il faut aller voir un médecin. Non, je suis très sérieux. Vous aurez à rencontrer un verset à propos du Sinaï où Moïse prévient les Hébreux. Vous n'avez rien vu. t'avais entendu. Alors ne me dis jamais je vois.
Mais
tu ne te feras pas d'image. Même pas d'image intellectuelle.
Mais c'est symbolique.
Non. Méfiez-vous des symboles, c'est comme ça que commencent les idoles. C'est comme ça que commence. Symbole, priez pour elle. Bon, attendez, on n'a pas fini. Je reprends l'analyse de la manière la plus simple et la plus élémentaire. Le comportement indiqué par cette racine, d'où vient le mot de « Amen », okay, eh bien, c'est le comportement d'adhésion de la volonté. Bon, donc c'est un comportement que j'ai défini en premier point de manière très générale. Okay. Et l'adhésion de la volonté n'a pas forcément pour objet Dieu et en quoi. Par exemple, les fiançailles. Okay. C'est peut-être ce qui vous a fait penser à l'alliance du mariage. Ça va avec. Et donc adhérer, premièrement, deuxièmement, enfin progrès dans l'analyse, c'est faire confiance. Et au fond, puisqu'on parle de ça, l'objectif qu'on va avoir dans cette analyse, c'est d'essayer de définir, de découvrir en quoi il y a un mérite à la foi. Bon. Mais ne confondez pas avec ce que vous avez appelé tout à l'heure la croyance. Je suis le vocabulaire français, hein, en français. La croyance a pour objet des idées dont je ne suis pas sûr. Alors j'y crois. Par exemple, dans notre problème, on parlera de croire en l'existence de Dieu. C'est un faux problème. C'est un problème infantile, avant l'âge adulte de la vie spirituelle.
Non, je reconnais.
Non. C'est pas que je... Ou bien je sais, ou bien je ne sais pas. Mais surtout, je dois découvrir que ça ne dépend pas de mes croyances. Et je vous ai averti au début de l'année que vous allez être dépaysé 13 fois. Il faut vous hébraïser. La chose la plus difficile, c'est de vous hébraïser en français. Mais pour se désintoxiquer du français, pour s'hébraïser, il faut passer par là. C'est clair jusque-là? Et vous verrez que chaque fois, les choses sont simples. L'objet de la croyance est un être intellectuel, c'est un objet intellectuel. L'objet de la foi, c'est un comportement de la volonté. Ça, c'est bien clair. Okay. Et la certitude est absolue dans la foi. Mais il y a aussi une dimension d'incertitude dont je vous parlerai après. Ce que je cherche, et je n'ai pas entendu encore, c'est quand j'ai foi, quand je fais confiance, en quoi je fais confiance? Quel est l'objet de la confiance? Non, c'est très dérivé, rappelle-moi ça après. Non, pas en moi. Quand je dis j'ai foi en Dieu, ça ne veut pas dire j'ai confiance en moi.
C'est comme si je me retourne la question, je me dis Amen, ce qu'il m'a dit, ça me revient. Donc tout ce que je dis, je dois le faire.
Tu as court-circuité deux choses là. Alors, la première, c'est en français, et ensuite, tu as répété ce que lui a dit en hébreu. Alors, suivez bien ce qui se passe, parce que sinon, on va perdre du temps. Alors, je vais mener l'analyse. Je vous ai donné, et vous l'avez repris, je pense, l'exemple des fiançailles. Par rapport au mariage, les fiançailles, c'est quoi?
Ça peut être des...
J'ai entendu.
Une promesse,
ok? Alors, l'objet de la confiance, c'est des promesses. Quand je dis j'ai foi, en hébreu, c'est clair, ça veut dire que j'ai confiance que les promesses que Dieu m'a faites s'accompliront. C'est ça la foi biblique. Les histoires de réfléchir par des raisonnements sur l'existence ou la non-existence de Dieu, c'est pas sérieux, c'est de la philosophie. Vous avez compris le problème? Alors, je reprends cette définition. Et ce que je vous ai dit là devrait faire éclater 1000 questions, hein, tout de suite. Mais je vais le prendre par un biais bien précis. Où est le mérite de faire foi à des promesses que Dieu fait? Si c'est Dieu qui les fait, eh bien évidemment... Non, c'est pas qu'on n'a rien à faire. C'est que, est-ce qu'on a un mérite d'y adhérer? Réponse. Pourquoi il y a mérite? Et mérite colossal. Parce que précisément, bien que ce soit Dieu qui ait fait ses promesses, elles ne s'accomplissent pas. Donc il y a un grand mérite à y adhérer. Je vous donne un exemple. Avec toujours notre problème central. Pendant 2000 ans, les juifs avaient une foi, une confiance, à une promesse, je vous ramènerai. Je ne sais pas si vous savez que pendant 2000 ans, ça ne s'est pas accompli. Il y avait un mérite colossal de continuer à avoir cette foi-là, alors qu'on n'avait aucune expérience, aucun signe que c'est possible que ça s'accomplisse. Vous avez compris? C'est clair ce que j'ai dit? Pardon? Explique, qu'est-ce que tu veux dire par là? Des conditions à la promesse. T'as bifurqué. Reprends la première phrase. Qu'est-ce que tu veux dire en disant
dans les fiançailles, la promesse est réciproque.
Oui, il y a un contrat. Bon, mais quand même, ça vous apprendrez par l'expérience. Bien sûr qu'il y a un contrat parce qu'on vit dans la vie de l'existence de tous les jours, qu'on risque d'être séduit, tout ce que vous voudrez. Mais une véritable confiance n'a aucune motivation que la confiance elle-même. C'est-à-dire, si je mets une condition à... Si je mets une condition, bien sûr qu'il y a des conditions qui doivent être accomplies, sinon l'alliance des fiançailles sera brisée. Okay ? Mais si je mets une condition à la confiance, il n'y a pas de confiance. Je vais vous citer un grand auteur philosophique qui a fait cette analyse-là, probablement tout à l'heure, Descartes, que je vous donne la référence. Si vous arrivez d'avoir son livre entre les mains, vous lirez cette page-là, mais je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Mais d'abord, je vais vous citer une Mishnah. Le Mishnah des Pirkei Avot qui dit Ahava Shei Tluya Badavar Ena Ahava Batel Adavar Betela Ahava. Je vous la mets pas au tableau, je demanderai peut-être à un de vos profs de Pam, comment elle s'appelle, Sarah, qui a l'habitude de vous apprendre les pilgamim, okay. Vous savez ce que c'est un pilgam? Et copiez bien ça dans votre cahier, parce que vous devez rattraper autant d'âge que vous avez d'ignorance de ces choses-là. Okay.
C'est quoi
un pilgrim? C'est un des proverbes. Proverbe, c'est pas exactement le mot, vous pouvez garder proverbe. C'est une des formules de la sagesse traditionnelle juive. Okay. Alors, je le dis en français. Un amour qui dépend d'une condition n'est pas un amour. Parce que si la condition tombe, l'amour tombe aussi. Vous avez compris? Donc, la confiance... Et là, j'emploierai peut-être le mot que tu as employé tout à l'heure, peut-être pas dans le même sens que tu voulais, la confiance est gratuite. Non, c'est un mot qui ne va pas parce qu'en français, gratuit, ça veut dire arbitraire. Okay, à condition que vous distinguiez entre gratuit et arbitraire, vous rappelez Noir, c'était gratuit mais pas arbitraire, vous rappelez de cela? Vous pourrez garder en français le mot de gratuit. Ça veut dire, j'ai eu préalablement des preuves. Et alors, ces preuves, préalablement, mène à l'acte de confiance. Et l'acte de confiance est inconditionnel. Si je mets une condition, c'est que ce n'est pas de la confiance, c'est que c'est de la stratégie. Vous y êtes ? Par exemple, quand on a perdu confiance en quelqu'un, parce qu'il y a eu des preuves qu'il a failli à sa promesse, okay, et bien la confiance est perdue. Pour la lui rendre, il faut oublier ce qui s'est passé. Parce que pour la lui rendre, il faut la lui rendre totale. Si on ne la lui rend pas totale, on est empoisonné toute sa vie. Vous voyez pourquoi il y a énormément de ménages qui ne marchent pas? C'est parce que les fiançailles n'ont pas marché. Okay. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, vous apprendrez que dans la tradition juive, il n'y a pas de casier judiciaire. Enfin, je vous l'ai dit une fois. C'est une morale difficile. Il n'y a pas de casier judiciaire. À partir du moment où on a pardonné, on a rendu confiance, il faut rendre la confiance totale. Sans a priori, sans condition. C'est clair? C'est pas facile, sachez-le. C'est pourquoi il ne faut jamais se mettre dans ce cas de... Toutes les drames de la jalousie viennent de cela. Parce que on n'a pas rendu confiance, on n'a pas donné confiance, rendu confiance absolument, alors on est taraudé par le souci de la jalousie, et finalement on est obligé pour en sortir de créer la situation qui justifie la jalousie en question. Divorce. Vous avez compris le problème, okay? Alors, l'acte de foi, l'acte de confiance, prenez encore provisoirement ce modèle important des fiançailles. C'est sérieux des fiançailles. On se donne sa foi. Et on se donne sa foi, ça veut dire qu'il ne doit pas y avoir une seule bavure. Et s'il y a une bavure, on s'explique tout de suite. Si on laisse l'autre penser que peut-être, c'est fini. La confiance est détruite. C'est clair ? Premier cas. Deuxième cas, on a pardonné, on essaye encore, on se redonne confiance, c'est très difficile. Mais si ça se fait, ça doit se faire absolument sans aucune condition. C'est clair? Donc c'est une adhésion vraiment. L'objet de l'adhésion, c'est des promesses. Ça c'est la deuxième analyse que je fais. Vous voyez qu'on est très loin d'un problème pseudo-philosophique de savoir si Dieu existe ou pas. Quel est le souci de la foi? C'est les promesses que Dieu m'a faites. Nous avons des promesses dévoilées, révélées par les prophètes. Mais le seul fait d'exister dans le monde est en soi une promesse. C'est-à-dire, si Dieu m'a créé dans le monde, en me créant, ça veut dire qu'il me fait la promesse d'un monde vivable. C'est déjà le fait de naître, si je me connais comme créature, qui a reçu l'être, ceux qui ont suivi les autres cours, vous rappelez ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en me créant, Dieu m'a promis un vrai monde. Alors avoir la foi, c'est avoir la foi que cette promesse de Dieu s'accomplit. Et où est le mérite ? C'est que ça ne s'accomplit pas. Vous avez compris ? Est-ce que c'est clair ? C'est ça, ça ne s'accomplit pas encore. Et deux petites parenthèses. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un contenu de sagesse de ce en quoi on a foi. Ce n'est pas parce qu'on est capable de foi qu'on doit avoir foi en n'importe quoi. C'est bien clair. C'est bien clair. Il y a une sagesse énorme de la foi. Mais l'acte de foi, ce n'est pas un acte de connaissance. Ce n'est pas un acte intellectuel. C'est un acte d'adhésion de la volonté. Un acquiescement de la volonté qui est total. C'est bien compris ? Et je crois que ce n'est pas pour rien que les prophètes eux-mêmes ont pris cette image des fiançailles pour s'exprimer chaque fois qu'ils parlent de la foi. Vous pouvez lire la Bible dans tous les sens, vous ne trouverez aucun raisonnement de type philosophique, théologique qui aurait pour objet de vous prouver l'existence de Dieu. Ben, vous pouvez lire du début jusqu'à la fin. Il n'y a aucun raisonnement de ce genre. Est-ce que c'est clair ? Et, alors j'avance un peu dans l'analyse. En reprenant, je vais essayer de vous éclaircir ça, mais je pense que vous l'avez expérimenté par vous-même. La phrase de la Mishnah des Pirkei Avot. Ahava, Shei, Tluya, Badavar, ce qui sert déjà plus l'hébreu en tant qu'un hébreu, Tluya, Badavar, ça dépend de quelque chose. Ena, Ahava, Betela, Batela, Davar, Betela, Ahava. Si la chose s'annule, la condition s'annule, l'amour s'annule. Vous comprenez ? Par exemple, si une mère dit à son enfant, je t'aime parce que tu es mon fils, cet amour est suspect. Alors s'il n'était pas son fils, elle n'aimerait pas.
Mais l'amour en plus, parce qu'il est son fils.
Hein ?
Oui,
et bien ces choses-là, ça se dit pas. Ça fait du mal au fils d'entendre ça. Parce que si c'était pas son fils, il n'aimerait pas. Or, c'est son fils. Bon, j'ai ouvert une parenthèse un peu trop élaborée. Bon, mais vous comprenez. Mais je vous donne un exemple plus simple. Si je dis à ma fiancée, ça m'appelle votre âge, je t'aime parce que tu es belle, ça veut dire je l'aime pas. C'est clair ? Il faut que je lui dise, je t'aime. Et puis, grâce à Dieu, en plus, tu es belle. C'est une chance quand en plus elle est belle. Mais ça n'a rien à voir avec le fait que je l'aime ou pas. Est-ce que c'est clair ? Vous avez compris le problème ?
Oui, il y a des raisons.
Il n'y a qu'une raison d'aimer, c'est l'amour lui-même. Sinon, c'est pas de l'amour, c'est la raison.
Oui, mais ça, c'est interchangeable.
Jamais de la vie, réfléchissez bien ça. Je vous ai simplifié l'analyse, mais elle est totale. Et nous avons le témoignage de la Mishnah. Un amour qui a une cause est un amour vulnérable. Parce que ça va dépendre de la cause. Alors il peut y avoir deux stades. D'abord il y a eu la cause. Et après il y a eu l'amour vraiment. Ça arrive là. Mais au début c'était vulnérable. C'est clair ? Et au deuxième stade on arrive à ce que j'ai dit tout à l'heure. En plus elle est belle. Et ça ne regarde personne. C'est clair ? Alors tant qu'on n'est pas ici à ce niveau-là. Amour, il n'y a pas. Fiançailles, il n'y a pas. Foi, il n'y a pas. Est-ce que c'est clair ? J'ai bien compris. Bon, c'est, comme pour beaucoup de choses, c'est facile à comprendre, c'est pas facile à faire, méfiez-vous. Se méfier, c'est l'inverse de la foi. Okay ? Méfiance.
Qu'est-ce que vous dites ? J'arrive pas à prendre ce parallèle entre les fiançailles, le mariage, l'amour et les relations.
Une notion, la promesse. C'est tout ce qu'on avait isolé de cela. C'est clair ? Il y a des promesses que Dieu m'a fait. Oui, oui.
C'est ça. Là, il y a une foi envers Dieu.
Oui, oui, oui. Et je suis, par exemple.
Une foi,
pardon ? Oui, oui. Par exemple, le verset Je serai votre Dieu, vous serez mon peuple, que vous trouverez dans différentes formes dans le Tanakh. Voilà. Eh bien, ça veut dire qu'il y a une alliance réciproque de type fiançailles. Fiançailles passées au futur, ok ? Mais je serai votre Dieu, vous serez mon peuple. Ça veut dire que Dieu a des raisons que les prophètes vont essayer de nous expliquer, de choisir Israël comme fiancé. C'est réciproque. Je me souviens, c'est une petite anecdote qui détendrait un peu de ce problème. Vous voyez à quel point il faut s'hébraïser dans l'essentiel. Okay. On n'a aucune idée à quel point on se balade dans la vie juive avec des mentalités étrangères. Okay. Un dernier colloque auquel j'ai assisté à Paris, il y avait un colloque entre... des juifs représentant l'idéologie de la diaspora et des israéliens, et en particulier j'avais participé à un colloque, un morceau du panel, je ne sais pas comment on dit ça, du colloque, où je devais colloquer avec un juif laïque, comme il s'appelle. Encore une erreur monumentale de langage, comme s'il y avait des moines non plus laïcs, bon, on parle de laïcs, bon, vous comprenez ce que je veux dire. D'ailleurs, c'est un des représentants du judaïsme laïque en France, je ne sais pas si vous connaissez Richard Marienstrass, ça vous dit quelque chose.
Ouais.
Bon, nous sommes amis intimes, depuis toujours, parce qu'on a fait partie des petites équipes d'étudiants de résistants il y a 40 ans, amis intimes, il n'y a pas de problème. On nous a mis les deux à colloquer. C'était faussé à l'avance, on ne pouvait pas s'engueuler, c'était pas possible. Alors à la fin, Richard Marienstrass dit devant le public, « Ah, ne croyez pas parce que je suis complètement d'accord avec Manitou que je crois en Dieu. » Oui, à peu près le problème. Alors j'ai répondu ce que je vous ai dit tout à l'heure. L'essentiel, c'est pas que toi tu crois en lui, c'est que lui croit en toi. Or, comme tu es juif, c'est qu'il croit en toi. Et tu dis, tu sauras peut-être pourquoi. Ça y est, c'est clair. Alors, vous voyez le problème. Dans tous les cas, c'est réciproque. C'est un des grands mystères de la prophétie biblique, pourquoi Dieu a choisi Israël. C'est quelque chose qu'on est en train d'étudier péniblement le dimanche et le lundi matin dans le cours Abraham, Isaac. Est-ce que c'est clair? Donc, alors, ce mystère n'est pas un mystère. Et, disons que c'est un secret. Quelle est la différence entre un mystère et un secret?
On peut dire ça comme ça,
oui.
Un secret, c'est quelque chose qu'on connaît, et qu'on dit qu'on est un mystère, c'est quelque chose...
Non. Un secret, on ne dit pas.
Il n'y a pas d'explication à un mystère. Il y a du mysticisme dans un mystère.
Bon, mais ça, c'est du psittacisme. Mais, vous avez dit l'essentiel, mais je vais simplement améliorer la formule. Un mystère, c'est une connaissance qu'on n'a pas, mais qu'on ne peut pas avoir. Alors qu'un secret, c'est une connaissance qu'on n'a pas, mais qu'on peut avoir à certaines conditions. C'est clair? Quelles conditions? On étudie Stam Kacha avec quelqu'un qui... Voilà. C'est clair? C'est dit. C'est... Maintenant, t'appelles Bernard, toi? Bernard? Et ton nom hébreu, tu as déjà trouvé? Chelou. Et la sagesse. Et alors, là, je reprends ce que tu as dit. Un secret, celui qui a un secret n'a même pas le droit de dire qu'il a un secret. Parce que dès qu'il dit qu'il a un secret, il l'a révélé. C'est clair? Fais bien attention à ça. Alors, c'est comme ça qu'on forme les secrétaires. Le secret, c'est terre. Bien, je reviens à mon problème. C'est que dans la théologie chrétienne, on parle de mystère. Alors que dans la théologie juive, on ne parle jamais de mystère. À la rigueur, il y a des secrets. C'est clair? Bon. Un jour, je vous parlerai des mystères du christianisme, quand on sera un peu plus avancé. Qu'est-ce que je disais juste avant? Oui, là, nous parlions de la raison pour laquelle Dieu a donné sa foi à Israël. Et c'est une foi irréversible. Je ne sais pas si vous remarquez ce qui se passe dans l'histoire. Et nous sommes privilégiés, après 4000 ans depuis Abraham, de voir en rétrospective, a posteriori, que c'est comme ça que ça a fonctionné, quelle que soit la conduite d'Israël à l'échelle des individus et des kehilotes, des communautés, cette alliance est éternelle, parce qu'il y a un des deux contractants qui est éternel. Vous avez compris? Au point que même quand tous les juifs d'une communauté veulent s'assimiler, les goyim ne les laissent pas. Vous avez remarqué? Et ça veut dire que Enbrera, qu'est-ce que ça veut dire Enbrera?
Pas de choix.
Pourquoi il n'y a pas le choix? Parce que le choix, on l'a eu avant de naître. Je ne sais pas si certains d'entre vous étaient à Yaïr quand j'ai parlé de ça. Non? Bon, je ne vais pas ouvrir cette parenthèse. Rappelez-moi que je vous ai dit un secret. Je reprends donc l'analyse. Alors, je vous disais tout au début que le Shaliar Tzibour est celui qui est chargé de porter la prière de la communauté.
Oui, quand on fait Gaal Israël, ça veut dire que la Tfila est finie?
Non, pas la Tfila. Le Kriyat Shema est achevé. Et on commence la Tfila qui est la Amida. Non, ta question, tu la poses parce que tu n'étais pas là au cours du début de l'année, je suppose. Okay. Bien attention à ça. Prenez un peu de temps, ceux qui sont arrivés en retard, de vous recoder avec un camarade à travers des exercices aux deux. Okay. La tfila, c'est le Shmoneh Esrei. Le Kriyat Shema, c'est un autre rite. Okay. Et rappelez-vous, le cours de la dernière fois, et vous avez appris en cours de dinim, ils n'ont pas la même législation, la même réglementation. Tant que le temple existait, c'était deux mitzvot séparés radicalement, l'une et l'autre. La tfila, c'est la tfila, le Kriyat Shema, c'est le Kriyat Shema. À partir de la destruction du temple, on a décidé de les joindre. Vous y êtes ? Je reprends donc le cours de la dernière fois, pratiquement. Okay. Quelqu'un va me rappeler pourquoi j'ai parlé du Shaliach Tzibour ? Au tournant de quelle phrase ?
Hein ?
Non, je vous ai expliqué que le Shaliach Tzibour, c'est l'envoyé de la communauté, c'est pas forcément un chantre, comme on dit aujourd'hui dans les communautés, le cantor. Et en général, d'ailleurs, ils ont des voix épouvantables, mais je sais pas qui a décidé que ça s'appelle une jolie voix. Enfin, peu importe. Et le Shaliach Tzibour, c'est celui qui porte la prière de la communauté. Et je vous ai dit que de notre temps, il y a toutes les tolérances possibles et imaginables, okay, parce qu'on tient compte de l'état de chaos des rescapés qui forment les communautés juives, c'est bien clair. Et tout ce qu'on réclame en tout cas du Shaliach Tzibour, même si ce n'est qu'un chazan, c'est qu'ils comprennent qu'est-ce que ça veut dire Amen. Ça va ? Mais pourquoi je vous ai parlé de ça ? Eh bien, c'est que l'individu entre dans la prière du Tzibour, qui est porté par le Shaliach Tzibour. Ça va jusque là ? Donc, il y a certaines parties de l'office. Et habituez-vous donc cela, la prière, le mot de prière, on l'a particularisé pour le Shmoneh Esrei. Ça, j'ai passé 15 jours là-dessus, je ne peux pas y revenir. Vous vous recoderez sur les cassettes antérieures. As-tu l'entendu ? L'office, c'est l'ensemble de tous les rites oraux qui vont ensemble dans tel ou tel office, Shachrit, Mincha ou Arvit. Par exemple, dans notre étude maintenant, le Kriyat Shema et la Tfila font partie du même office. Mais il y a d'autres rites depuis le début jusqu'à la fin. Depuis l'Oreh Neshama jusqu'à Al-Nun Shaber, il y a 7 rites différents. Pour le moment, on étudie que la Tfila et le Kriyat Shema. Okay, pour d'autres parties de l'office, on peut ne pas avoir besoin du Shaliach Tzibour, vraiment. Ça peut être un chazan, on l'appelle un messader, celui qui ordonne la lecture. Vous avez compris le problème ? Mais le Shmoneh Esrei, c'est la prière de demande de la communauté, doit être portée par quelqu'un qui en est digne, sans entrer encore dans les débats. C'est clair ?
Vous voulez dire alors que certaines prières sont moins importantes que les autres ?
Non. Certains rites ne sont pas des prières. Il n'y a pas de question. C'est pas la prière. Ça y est, c'est clair ? Par exemple, le Kriyat Shema peut être dit par un des membres de l'Assemblée qui n'est pas forcément le Shaliach Tzibour. C'est bien fait. Peut-être vous habituerez à la longue à rattraper toute cette familiarité qui vous a manqué, mais ça vient vite, ne croyez pas que c'est difficile. Comme je vous ai dit un jour, avant de savoir, moi je ne savais pas. Donc on peut apprendre.
Le devoir de prier, ça veut dire que c'est que la tfila.
Ah oui. Le Shmoneh Esrei se rattache au devoir de prier. Bien sûr. Puisque dans le droit de prier, il n'y a aucune formule imposée. C'est pas prière, dans le sens strict. Je crois qu'il va falloir toute l'année pour vous habituer à cela. Okay. Par exemple, j'avais l'habitude, peut-être avant, le Kriyat Shema de dire c'est une prière. C'est pas une prière dans le sens strict. C'est un autre rite, qui est un rite de proclamation de foi, un rite de témoignage. C'est clair ? Habituez-vous bien à cela. Vous voyez à quel point les modernes civilisés se sont déspiritualisés. Il y a un flou, tout est synonyme au niveau de la vie spirituelle, alors que il y a des perspectives et des niveaux extraordinairement différenciés. Vous comprenez cela ? Oui. Le mot de prière, dans son sens strict, c'est la Amida. C'est la Amida chez les Sfaradim. On l'appelle comme ça chez les Sfaradim, chez les Ashkenazim, le Shmoneh Esrei. Okay. Qu'est-ce que ça veut dire Shmoneh Esrei ?
18.
Parce qu'il y a 18 brachot qui sont en réalité 19. C'est un autre problème qu'on verra à part. Vous avez dû toucher déjà cela avec David.
Avec Youssef.
Oui, on sait, oui. Mais vous verrez toujours de différents points de vue pour que ça, ça arrive à se reconnaître.
Je vous avais dit qu'il y avait un deuxième sens du mot
Amen. Non, je vous avais dit que...
Deuxième racine de
Ah oui, voilà. C'est quel est l'autre substantif de la racine Amen, à part Emouna, qui connaît? Emmet. Voilà. C'est la même racine. Hein? La racine Amen a donné deux substantifs. Emouna, qui est le premier substantif de la racine Amen, et Emmet, qui en est le deuxième. Emmet, c'est la vérité. Je ne vais pas prendre trop de temps, mais donnez-moi très rapidement une définition. Qu'est-ce que c'est ça, la vérité? La foi, on l'a déjà compris. Confiance, les promesses. Hein? Qu'est-ce que c'est la vérité? Attends, je vais mettre mes lunettes, quand j'ai pas mes lunettes, j'entends pas. Le plus fort, c'est vrai. Ça, c'est utile.
On a appris déjà que c'était la présence de Dieu, mais...
Où vous avez appris ça? Avec moi?
C'est
vous
avez
dit ça. Ah oui, tout au début, oui, quand je vous ai fait à la bête, là. Bon, mais ça, c'est très, très dérivé, hein.